Passagem de Nível, com Artur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau ce dimanche 3 décembre. Et on sera en votre compagnie jusqu'à 14h. Téléthon 2023. Ça y est. Bon, ça sera le 8 et le 9. Mais ici, on va donner le démarrage. On parlera également du livre C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets 1974-1976. Victor Pereira, historien aux éditions du Détour. Et justement, 50 ans de la révolution des œillets au Portugal, ça sera en 2024, on va parler avec un déserteur de l'armée coloniale et antifasciste, et on parlera également de la campagne que la Santa Casa Misericordia de Peniche a lancée, campagne de Noël, et ça pour récolter des produits alimentaires et d'hygiène pour aider, entre autres, les Portugais qui ont des difficultés ici en France. Et on parlera également de poésie avec le livre Spirale de Delphes de Christine Cortes. C'est des poèmes autour de Camões, mais pas seulement, tout simplement de la mythologie. Alors, avant tout, Gabin, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être en notre compagnie. Alors, et qui c'est qui est à côté de toi, tu peux me le dire?
C'est celui-ci, mon champ d'assistance.
Mm-hmm. Alors, de l'autre côté, on a maman. Ophélie de Brit, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, Amalia Forel, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Amalia, merci d'être là.
Bonjour.
Donc, c'est le marathon qui a commencé.
Qui a bien commencé déjà, oui, tout à fait.
Donc, le 8 et le 9, ça va être la grande mobilisation. Alors, on a avec nous Gavin, 12 ans, qui a ce qu'on appelle myopathie de Duchenne. On dit ça, maladie rare, orpheline, etc. Alors, Ophélie, comment ça se passe la journée d'une maman? Après, on parlera, bien entendu, avec Gabin, parce que Gabin, il est à l'école. Ouf, c'est déjà pas mal. Comment ça se passe une journée pour vous et pour votre famille?
Alors, on a la chance que Gabin il soit scolarisé en milieu ordinaire au collège. Mais effectivement, en fait, quand on a un enfant malade, on va dire que tout est un petit peu plus compliqué dans la gestion du quotidien. Moi, Gabin, il est atteint de la myopathie de Duchenne, donc c'est une maladie neuromusculaire dégénérative. Ça veut dire que petit à petit, en fait, ses muscles s'usent et ne se régénère pas. Ça fait que, au final, il perd certaines capacités. Donc cet été, par exemple, il a perdu la marche. Ça inclut forcément le fait d'avoir plus de difficultés dans la vie quotidienne, plus de temps pour se préparer, plus d'empêchements en fait sur le quotidien. Bien que Gabin, il soit très 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 volontaire
et extrêmement autonome
et encore plus depuis qu'il a son chien d'assistance, effectivement Smoothie, qui l'accompagne au quotidien.
Et d'ailleurs, on va parler justement de Smoothie, mais ça concerne le Téléthon. Est-ce que ça a aidé Gavin? Est-ce que c'est des choses qui ont été faites dans le sens de trouver des résolutions, trouver des traitements et que puissent déjà stopper la progression de la maladie, d'une part? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Téléthon lui a apporté quelque chose déjà?
Alors déjà oui, concrètement, le Téléthon, en fait, si le Téléthon n'avait pas existé, si la FM n'avait pas existé, déjà on n'aurait pas eu le diagnostic de la maladie de la myopathie de Duchenne, parce qu'il n'y aurait pas eu l'identification en fait du gène lié à sa maladie. Et du coup, quand on connaît un nom de maladie, déjà on peut envisager en fait des traitements, des pistes thérapeutiques, et du coup les chercheurs peuvent essayer de trouver un remède, une solution. Donc ça, c'est une première chose. Sans le Téléthon, effectivement, on aurait malheureusement pas on saurait pas finalement contre quoi on se bat. On a la chance qu'il soit pris en charge sur l'Institut iMotion, en fait, qui est un centre de recherche qui est spécialisé dans les maladies neuromusculaires qui est basée sur Trousseau. Donc là, pareil, c'est des professionnels qui le prennent en charge au niveau médical et puis qui sont à la pointe de la recherche effectivement sur cette maladie et sur d'autres maladies rares. Donc il a aussi bénéficié de deux essais thérapeutiques pour essayer de trouver un traitement pour sa maladie. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné, on va dire, dans sa pathologie. Mais grâce au Téléthon, effectivement, on est plein d'espoir parce que on sait que les recherches avancent énormément. Et voilà.
Voilà. Alors, nous n'avons rien lâché. C'est pas moi qui a dit ça, Amalia, mais Laurence Thienot-Hermin, présidente de l'AFM Téléthon. Et aujourd'hui, il y a déjà des traitements. Les traitements sont là. Et d'ailleurs, même dans le dossier de presse, et pas seulement. Bon, si je marche, c'est grâce à vous. Le Téléthon a changé ma vie. Tout un tas d'exemples comme ça. Donc, ça veut dire qu'il a fallu la générosité, je déteste ce mot-là, même enfin, du peuple, des gens, pour aider à la recherche. Bon, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est une autre affaire aussi. Mais enfin, ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, on a vaincu un certain nombre de choses.
Oui, et de toute façon, vous auditeurs et animateurs et journalistes de Radio Alpha, vous le suivez bien parce que vous êtes à nos côtés depuis des années et vous voyez bien qu'il y a eu d'énormes progrès, sauf qu'il y a encore des tas de choses à faire. Mm-hmm. Mais vous voyez, de ce que vient de vous parler Ophélie, la maman de Gabin, eh ben, c'est grâce à vous, c'est grâce au Téléthon, c'est grâce à toutes ces animations qui ont lieu pour le Téléthon que l'on a pu avancer. Et là, en effet, un des quatre représentants, des quatre ambassadeurs, nous on les appelle les ambassadeurs, cette année, bah, il y a en effet un petit garçon qui s'appelle Ibrahima, qui vous dit, bah, si je marche, c'est grâce à vous, et c'est une réalité, c'est une réalité.
Oui, effectivement, bon, il y a déjà des traitements, moi je n'ai pas toute la liste, mais enfin, pour les maladies rares du muscle, vision, foie, cœur, peau, déficit immunitaire, bon, je pourrais continuer la liste, bon, c'est des recherches. Alors, Gabin, d'une part, comment ça se passe au collège?
Ça se passe très bien.
Oui.
J'ai des amis.
Mmh. Et au niveau, t'aimes bien l'école?
Oui.
Oui.
En quelle classe?
Je suis en cinquième.
Mmh. En cinquième, oui. Mmh.
Et accompagnée de Smoothie.
Oui.
Ah oui, alors parlons de Smoothie, parce que Smoothie, bon, quand t'es arrivé ici, il te regardait. Oui. Parce que finalement, oui, bon, les ordres, qui c'est qui les donne? Il n'y a que toi?
Oui, bon, mes parents, des fois, ils peuvent aussi lui en donner.
Mmh. Et alors, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il fait pour t'aider?
Smoothie, il peut m'apporter, par exemple, des objets que j'aurais fait tomber par terre.
Mmh.
Il peut m'ouvrir la porte, m'allumer la lumière.
Mmh.
Me retirer mon manteau.
Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il est toujours collé à toi.
Oui.
Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un animal comme ça? Ça t'a changé un petit peu, beaucoup. Ça t'a changé la vie depuis qu'il est avec toi et avec ta famille.
Oui.
Mmh. Et qu'est-ce que tu trouves? Bon, c'est un aide de camp. Je te parle comme si c'était militaire, mais c'est pas ça. Mais ça n'empêche que bon, c'est un sacré compagnon que t'as réussi à avoir.
Oui, c'est un sacré compagnon.
Mmh. Et alors, ces compagnons, c'est toi qui as fait la demande? Qui c'est qui te l'a proposé, le compagnon? C'est maman ou c'est papa? C'est qui?
C'est mes parents.
Mm-hmm.
En fait, j'ai attendu 3 ans avant d'avoir Smoothie.
Mm-hmm. Donc, il y avait vraiment un besoin. Alors, qu'est-ce que tu penses quand tu vas à l'école? T'as dit que t'avais des copains à l'école. Ça, c'est très important parce que souvent à l'école, quand on n'est pas pareil que les autres, on le regarde de travers. T'as ressenti ça déjà à l'école, que les autres enfants, les autres garçons, les autres filles, ils te mettent un petit peu de côté? Ou ça n'a jamais arrivé, ça?
Non, c'est jamais arrivé.
Mmh.
Là-bas, c'est un amour. Et puis, il est volontaire. J'ai envie de faire plein de choses.
Alors, c'est jamais arrivé, mais c'est vrai que là, depuis qu'il y a le chien, en fait, ça brise un petit peu les barrières. Pour les enfants, même s'ils sont bienveillants dans son collège, il n'y avait pas de souci. C'est vrai que peut-être aborder un enfant en situation de handicap, en fauteuil, sans savoir trop quoi lui dire finalement, et lui parler peut-être que de sa maladie en premier abord, au lieu de lui parler finalement du quotidien d'un jeune de 12 ans. Je pense que là, le fait qu'il y ait Smoothie, ça a brisé en fait cette glace et ça permet tout de suite d'avoir un contact plutôt sympa. Je pense que ça a été très positif.
Oui, parce que le regard des autres, parfois, c'est incroyable, parce qu'on dit, bon, d'accord, je ne suis pas pareil que toi ou toi, mais je suis quelqu'un, je suis une personne. Et à propos d'être personne, bon, je pense que tu as des choses que tu aimes bien faire. Hier, tu as été dans un match de foot.
Oui.
C'est toi qui as donné le coup de l'envoi.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Mmh. C'était entre le Gitanos Samor et avec le...
Non, pas
le
Gitanos Samor. Non.
C'était avec l'APAC, en fait, de Champigny et d'accord. le Variety Club de France. Mmh. Donc, c'est vrai que c'était un projet qui a été préparé depuis longtemps par l'APAC. Et ça leur tenait très à cœur, en fait, de soutenir le Téléthon, d'essayer de lever des fonds et de sensibiliser à la cause pour les maladies neuromusculaires. Donc, c'est vrai que c'était un très, très beau moment.
Voilà, lui, il a donné le coup d'envoi et son frère Arthur. Qu'est-ce qu'il a fait, Arthur ?
Il était ramasseur de balles.
Super.
Et t'aimes bien regarder le foot, par exemple, à la télé ou pas trop ? C'est pas ton truc ?
Ça va, oui.
Bon, tu veux aller par là ? Justement, les jeunes de ton âge, ils sont complètement fous des jeux. C'est jeux vidéo, oui. Ceci et cela. Tu passes un certain nombre d'heures et on doit te dire, bon, attention, c'est...
Moi, j'y joue que le week-end et pas tout le temps.
C'est un choix de ta part. Oh, c'est papa et maman que tu dis, bon, il faut freiner, là. c'est un peu des deux.
Ça va, il est quand même raisonnable. Ouais. Ils sont beaucoup dans les constructions, là, Minecraft. Ouais. Et puis après, sinon, les vraies constructions aussi, les jeux de Lego. Ils ne sont pas que sur les jeux vidéo.
Ah, d'accord, c'est super. Et au niveau de l'école, quelle est la discipline que tu détestes ?
Le français.
Ah bon ?
Oui. Oui, parce que c'est vrai pour les conjugaisons, les verbes. C'est un truc incroyable. Ouais. Et les maths, ça va ?
Oui, ça va.
T'aimes bien les maths ?
Oui.
Ça va, t'as plus de chance que moi. J'ai jamais les maths. Mais à l'école, il y a des trucs. Qu'est-ce que t'aimerais bien que finalement, qu'on enseigne à l'école ? Quelque chose comme ça, une matière, quelque chose que tu veux. Mais pourquoi est-ce que l'école ne parle pas de ceci, ne parle pas de cela ? Parce que vous, les enfants, vous avez un regard différent par rapport à nous, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que l'école doit enseigner ? T'as une petite idée là-dessus ou pas ?
Non.
Non, pas trop.
Non. Oui, c'est satisfait.
Alors, revenons un petit peu au Téléthon. Donc, ça va être le marathon, comme d'habitude. le 36-37, ou alors téléthon.fr. Au niveau du 94 à Marly, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'entre autres, les pompiers, c'est incontournable.
Oui, ça, les pompiers sont toujours là. En principe, ils vont être à Maison-Alfort, ils vont être à Créteil-Soleil aussi. J'ai aussi un petit bonjour à vous donner, parce que j'ai reçu un message de Tony Gamma, donc le parrain de la coordination, qui n'a pas pu être avec nous cette année, aujourd'hui. Il espère pouvoir justement faire le Téléthon avec nous la semaine prochaine. Mais donc, il vous passe bien le bonjour. Il est toujours présent, il est toujours dans nos cœurs. Dans le Val-de-Marne, il y a de nombreuses animations. Bon, voilà, hier, il y avait déjà ce match de foot. Le soir, on est allé à l'Amicale des Portugais de Vincennes qui organisait un bal. Je leur ai même demandé au chanteur de me chanter au mêlant, au mêlant. Ce qu'il a fait. Et on a tous dansé, c'était super. Et voilà, et ça continue. Il y a des animations cette année. Les animations sont très étendues. Ça a commencé là déjà. Et puis ça va continuer donc le week-end prochain. Et puis encore pendant 15 jours. Voilà, il y a de nombreuses animations. Regardez, alors, moi je parle pour le 94, mais pour toute l'île de France, vous pouvez aller voir sur les panneaux de la ville ou des choses comme ça, où ils vous donneront les programmes. Il y a des programmes qui sont vraiment très, très, très variés. Les gens attendent le Téléthon avec impatience.
De toute façon, souvent, au site de Téléthon, FM Téléthon, on a ça département par département.
Exactement.
Parce qu'à propos, bon, il n'y a pas que la région parisienne, non, parce que Radio FA, elle passe à Lille,
oui, Lyon, je sais, oui, bien sûr.
Strasbourg, Monaco.
Oui, mais c'est dans toute
Cannes,
la France.
Cannes, Nancy, voilà. On va jusqu'à Marseille.
Ouais, on a même le Téléthon des étrangers, puisque les Français qui sont à l'étranger organisent aussi un Téléthon. Et même, je fais un petit appel aussi, si vous avez envie de devenir bénévole, être donc aux côtés de l'association AFM Téléthon, ben vous allez sur le site de l'AFM Téléthon et n'importe où vous êtes, vous dites « je veux être bénévole », vous mettez la région, la ville, et on vous mettra en communication, alors pour le 94 avec moi, mais pour les autres villes aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et c'est une très, très belle aventure.
Et d'ailleurs, ici, dans le parking de Radio Alpha, le dimanche 10 décembre, il y a une caravane de voitures qui va partir vers Trappes, justement. Ça, c'est dans le cadre du soutien au Téléthon 94.
Hein.
94, c'est l'association, le collectif Toute Junge France, dont Radio Alpha fait partie, également l'association Lightspeed Crew. Je ne garantis pas la prononciation d'anglais, mais enfin, donc ça va être une opération dans le cadre du soutien, justement, au Téléthon 94. Et donc, il y aura une caravane de voitures, je suppose. C'est des voitures ancienne et voiture ancienne. Alors, Gavin, au milieu de tout ça, bon, t'es venu aujourd'hui, tu vas faire quelque chose pour Téléthon, tu vas aller quelque part animer, parler des endroits ou pas?
Mardi, je vais aller dans l'école de mon petit frère pour le Téléthon.
Oui, tous les ans, en fait, on se mobilise effectivement. Alors auprès des équipes de bénévoles, il y a effectivement une des écoles de Champigny, l'école Bassis, qui tous les ans se mobilise pour le Téléthon avec une course ou des activités et un grand goûter en fait avec les parents d'élèves. Et puis nous, de notre côté, il y a toujours une collecte de piles qu'on fait dans le cadre de l'opération Une pile égale un don pour le Téléthon. Donc en fait, on récupère les piles usagées et ensuite, elles sont acheminées et recyclées via la Screlec. Et une tonne de piles, c'est 250 euros reversés à la FM. Donc voilà, depuis un certain nombre d'années qu'on le fait, habituellement, on a un petit peu moins de 400 kilos de piles par an qui repartent. Donc c'est vrai que c'est un petit geste, mais finalement, chacun a une petite poignée de piles au fond de son tiroir, ne sait pas quoi en faire, et ça peut changer le monde. Ça peut changer la vie d'enfants malades, parce que chaque petite pile, ça va correspondre à une somme au final. Donc, mis bout à bout,
Et surtout, ne pas les jeter à la poubelle, les piles.
Et à ce propos, quand on passe le portail de Radio Alpha sur la droite, il y a des trucs en bois blanc. Ouais. Il y a une boîte transparente avec plein de piles.
Ah bon?
Il suffit de regarder. Alors, Gabin, bon, t'es venu ici, tu regardes les trucs. Là, c'est tout ce qui se passe à la radio, là. Tu sais, les horaires, les pubs et tout ça. Une radio, finalement, c'est pas sorcier de parler au micro aussi?
Non, ça va,
mais c'est ça que je disais quand ils sont arrivés. Bon, on parle beaucoup. Le micro, il ne mange pas. Personne ne voit, on est entre nous.
Oui.
Et pourtant, t'as plein de choses à dire. Qu'est-ce que t'aimerais bien dire aux gens par rapport à ce Téléthon? Qu'est-ce qu'on peut regarder pour dire? Ben, je sais pas, c'est toi qui le dis, c'est pour moi.
Que ramenez vos piles pour le Téléthon, parce qu'une pile, ça égale à un don.
Mmh. Mmh. C'est très bien. Et puis aussi qu'ils aillent dans toutes les animations de leur ville, faire un geste, manger une crêpe, courir. Mmh. Alors cette année, c'est muscle ton Téléthon. Et voilà, c'est donner toute la force de tous ceux qui n'ont pas de muscles. Et c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années.
Mmh. Oui. Alors l'année dernière, j'ai des chiffres. Là. Moi, j'ai des papiers de partout, mais c'est pas grave. 326 414,50 €, ça a été les résultats du Téléthon au niveau du 94. Sauf erreur de ma part.
Oui, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, après, nous, on n'est pas... Le compteur du Téléthon, le compteur national, c'est ce qui est le plus important. Mmh. Si vous voulez, après, nous, ce qu'on ramène, 94, les autres, peu importe, le compteur est important. Et comme d'habitude, donc l'année dernière, il s'est arrêté à une certaine somme. Et puis finalement, deux mois après, on a pu avoir une autre somme parce que les gens sont vraiment généreux, donnent encore plus. Et puis surtout, c'est que les animations du Téléthon ne sont pas terminées dans la nuit de samedi à dimanche. Quand la télévision est terminée, il y a encore plein d'animations qui ont lieu le dimanche, qui ont lieu comme ça. Et du coup, ben, ça fait augmenter la cagnotte. Donc là, il faudrait muscler notre Téléthon et faire exploser cette cagnotte.
Alors, il faut dire aussi que l'essentiel, je dis 90% du Téléthon, c'est pour la recherche, que ça soit dit, parce que quand on voit les frais de gestion, ça fait 8,8% des dons récoltés tous les ans.
Oui, oui, bah c'est sûr, on donne principalement à la recherche et l'aide aux malades. C'est l'aide aux malades. Après, bah oui, on essaye. Vous voyez, nous, on est, la coordination, on est des bénévoles. Et voilà, on fonctionne avec beaucoup, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui ont du cœur, du temps. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous voulez faire partie de cette belle aventure, n'hésitez surtout pas, il y a toujours plein de belles choses à faire.
Et soutien aux familles aussi.
Oui, oui, c'est ça, c'est l'aide aux malades.
Qu'est-ce que vous avez senti, ça, cette chaleur, ce soutien, on est là et on peut vous aider, qu'est-ce que...
Bah, tout à fait. En fait, quand on a un enfant atteint de maladies rares, finalement, quand on regarde nos voisins autour de nous, y a personne qui est dans la même situation que nous. Donc, on se sent très seul à ce moment-là, même si beaucoup, la famille, tout ça, nous dit on est là. Mais finalement, on a personne à qui se... Enfin, on sent pas forcément compris. Le moment du Téléthon, pour nous, il est devenu aussi important finalement que les fêtes de fin d'année, parce que c'est un moment où les malades, les familles de malades sont mis en lumière un petit peu. Là, tout à l'heure, on parlait d'Ibrahima, où finalement on voit que sa vie, elle a complètement changé, puisque c'est un petit garçon qui à ce jour marche. Il y a encore quelques années, il serait plus de ce monde, puisque la maladie dont il est atteint, Ibrahima, ses enfants décèdent dans les premières années de leur vie. Donc c'est vrai que pour nous, le Téléthon, c'est un moment où d'une, on parle de la maladie de nos enfants ou des adultes qui sont atteints de la maladie. On les met un petit peu en lumière, mais on ressent aussi tout le soutien en fait des gens. Il y avait Serge Braun, qui est directeur scientifique à l'AFM, qui disait on peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons. En fait, c'est complètement ça. Pour nous, on le ressent un peu comme une bouffée d'amour. Et c'est vraiment un moment très, très important de solidarité pour nous quand on va sur les animations, qu'on voit des bénévoles se mobiliser parce qu'ils sont touchés de près ou de loin ou absolument pas, en fait, et juste sensibles à la cause de la maladie. C'est vrai que ça fait extrêmement de bien au moral. Et puis, pour nous, c'est énormément porteur d'espoir, en fait.
J'ai rien à rajouter parce que... Non, c'est à nos auditeurs de réfléchir à quelqu'un qui est confronté, c'est surtout gamin, qui a cette dite maladie rare, n'est-ce pas, et que c'est pas rentable pour les grands laboratoires. Mais je pense que Ophélie a résumé justement l'état d'esprit et justement le besoin de participer au Téléthon en Allemagne.
Ah oui, bien sûr. Il n'y a rien de mieux, de toute façon, qu'une famille pour témoigner. Nous, on est là, quand on était avec Tony, nous, on est là surtout pour vous rappeler toutes les animations, etc., parce qu'on le fait vraiment dans un but, nous, plus d'animation, etc., mais parce qu'on sait que c'est important. On sait que c'est important et en plus, ça vous permet de faire la fête, tout simplement. Voilà, vous achetez une crêpe, je veux dire, c'est pas un effort physique. Et les personnes qui sont... des personnes malades et leurs familles, ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux à ce moment-là, comme ça, en disant, la France entière bouge. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment des choses, il y a des chaînes humaines, il y a plein de choses qui se passent pour le Téléthon.
Solidarité.
Ah oui.
Tout simplement. Et reconnaître qu'on est des êtres humains avant tout et qu'on mérite respect. Alors, Gavin, si je te dis bon dia.
Ça veut dire bonjour.
Oui, mais tu peux le dire en portugais, il n'y a pas de souci.
Bon dia.
Et comment on dit au revoir?
Adeus.
Voilà. Adeus. Bon, alors, moi, je te rajoute en portugais, até à próxima.
Até à próxima. Non,
c'est un Dieu, ce n'est qu'on au revoir. Merci, Gavin, merci, Ophélie, merci à Marlie. Bien entendu, bon, pendant la semaine, on va parler, pendant le week-end prochain. J'attends d'avoir quelqu'un, d'ailleurs. en direct samedi pendant les infos, qu'on puisse à nouveau renforcer cet appel de solidarité, que les choses soient dites. Il ne s'agit pas de quémander quoi que ce soit. On demande
les
tout simplement solidarité. C'est un mot très important. Merci Gabin.
Merci.
Au revoir et à bientôt.
Merci,
à bientôt. Au revoir.
Merci, à bientôt.
Et nous, on revient dans quelques minutes.
Salut tout le monde, c'est Vianney. Cette année, j'ai l'honneur d'être le parrain du Téléthon. Je serai aux côtés des malades, de leurs familles, des chercheurs et aussi des milliers de bénévoles qui se battent pour vaincre les maladies rares. Grâce à vous, le Téléthon peut tout changer. Alors les 8 et 9 décembre prochains, faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr. Chaque don compte et moi, je compte sur vous. Radio Alpha.
Passager niveau, votre compagnie jusqu'à 14h. Alors, c'est le peuple qui commande la révolution des œillets 1974-1976, édition du Détour. Victor Pleyr, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Alors, justement, cette période 74-76, c'est une période importante parce que, bon, il faut dire que dans le livre, il y a plein de choses parce que, bon, on fait. Il y a un peu d'historique, parce que tout ce qui s'est passé en 1974 a quand même des origines. Il faut pas en parler, parce que dans le livre, bon, on revient à l'implantation de la République, la montée au pouvoir de Salazar, etc., etc. Donc, bon, comme ça, on comprend un peu mieux la situation de ce qui a provoqué le 25 avril. Mais si on peut le dire, il y a une année charnière, et vous abordez dans votre livre, c'est l'année 1971, Angola et Goa, et comme je veux dire, l'Inde et l'Angola. Donc ce sont deux événements qui sont, disons, que ça d'une certaine façon fait en sorte que bon, le fascisme soit tombé après ou pas?
Oui, en 1961, il y a plusieurs événements qui succèdent au cours de l'année. D'une part, le début de la guerre coloniale en Angola, à partir de le premier soulèvement en janvier, puis il y a le 4 février, puis après il y a le 15 mars avec les attaques du FNLA. Et donc le début et le très faible discours de Salazar, l'Angola rapidement et en force, donc vers l'Angola rapidement et en force. Donc c'est le début de l'effort guerrier extrêmement long que le Portugal va mener d'abord en Angola, puis en Guinée-Bissau, puis au Mozambique. Mais 61, c'est aussi un autre événement qui est l'invasion de Goa, donc un territoire portugais depuis le 15e siècle, le 16e siècle, pardon, de par l'Inde. Et ce qui se passe à Goa, ça va beaucoup marquer les militaires et les officiers, c'est que Salazar donne des ordres au gouverneur, Vassouri Silva, de résister jusqu'au dernier homme. Alors que l'écart de force entre l'Inde et le Portugal est vraiment très clairement à l'avantage de l'Inde. Et Vassouri Silva, il va décider non pas de sacrifier ses hommes, mais de se rendre au bout de quelques heures de combat, sachant qu'il allait perdre. Et pour Salazar, Vassouri Silva sera ensuite jugé et considéré comme un traître. Et donc pour beaucoup de militaires qui vont mener la guerre à partir de 61, ce qu'ils craignent, c'est que le gouvernement, les politiques, qui ne sont pas des militaires, les rendent responsables d'une éventuelle défaite. Et donc c'est notamment pour ça que certains vont commencer à conspirer à partir de l'année 73.
Alors on peut dire qu'à un moment donné, au Portugal, il y avait un triumvirat. D'un côté la dictature Salazar, de l'autre côté l'armée, et de l'autre côté l'Église catholique. C'était les trois forces principales au Portugal pendant des années et des années.
Tout à fait, on peut aussi rajouter la police politique, avec une partie des gens qui venaient de l'armée. Mais effectivement, Salazar, il arrive au pouvoir grâce aux militaires qui ont fait le coup d'État du 28 mai 1926. Salazar, lui, n'est pas du tout un militaire, c'est un universitaire, il est enseignant à Coimbra, et c'est les militaires qui l'appellent par deux fois pour qu'il essaie de régler les problèmes des comptes et des finances publiques. L'Église, évidemment, Salazar, lui, sa socialisation politique, c'est en cas d'un parti catholique à Coimbra, où il sera très proche de Strigel, qui deviendra ensuite le patriarche de Lisbonne. Et c'est le gouvernement appuyé par la police politique, l'Église catholique et l'armée seront le soutien à la dictature, qui explique pourquoi elle dure 48 ans. Mais dès les années 60, il y a quand même quelques brèches, même des années 50, avec une partie certes minoritaire de l'Église catholique qui critique la dictature, et un des plus connus, c'est l'évêque de Porto qui écrit une lettre très critique à Salazar en 1958, et une partie de l'armée qui a toujours été un peu critique, Et notamment en 61, une partie de l'armée était prête à faire un coup d'État contre Salazar, considérant que Salazar était plus en capacité de gérer la crise qui venait de débuter en Angola.
Alors, la guerre, et surtout la guerre en Angola, mais ouais, il faut dire qu'entre-temps, le gouvernement a décidé de prolonger le service militaire. 3 ans, c'est passé à 4 ans, etc., etc. Entre-temps, il y a le mouvement des capitaines qui a été constitué. Alors, il faut dire qu'au départ, bon, c'était déjà bien de faire la guerre coloniale, l'augmentation du service militaire obligatoire, mais il y avait aussi des revendications corporatives, non?
Oui, le début du mouvement des capitaines, c'est lié au fait que le problème de l'armée portugaise, c'est que d'une part, beaucoup de jeunes gens quittaient le Portugal avant de faire leur service militaire, et donc il y avait moins de soldats, mais surtout, ce qui manquait peut-être plus que les soldats, c'était les officiers. Les capitaines qui, sur place, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, étaient la pièce essentielle pour contrôler le territoire à la base des compagnies. Donc, il y avait des casernes un peu dispersées partout dans le territoire et donc, il fallait des capitaines. Sauf qu'au cours des années 60 et 70, il y a de moins en moins de jeunes qui rentrent dans l'académie militaire pour embrasser une carrière militaire. Et donc, le gouvernement essaye d'attirer les étudiants qui font leur service militaire, donc qu'on appelle les miliciens, pour essayer qu'ils restent dans l'armée. Et donc, ils vont faire des décrets-lois, le très célèbre décret-loi 353-73, qui est censé faciliter l'entrée et la carrière de ces miliciens. Donc, des étudiants qui n'ont pas fait l'académie militaire, mais qui se disent qu'ils peuvent rester dans l'armée. Et ça va provoquer une réaction corporative des officiers du cadre permanent qui ont fait l'école militaire et qui vont considérer que comme la loi elle était mal rédigée, que des étudiants qui ont passé l'académie militaire peuvent aller les dépasser dans la carrière militaire, ce qui est considéré pour eux comme un déshonneur, comme inacceptable. Et c'est de là que commence le mouvement des capitaines, mais qui va très vite sortir de ce cadre seulement corporatif de défense des droits des capitaines et des majors pour penser est-ce que cela fait sens de faire la guerre coloniale, et s'il faut trouver une solution guerre coloniale, qui soit une solution politique, il faut changer de régime parce que la dictature refuse toute négociation avec les mouvements de libération.
Oui, d'ailleurs, Spinola, il est passé par là, Portugal, le futur, etc., la tentative de créer un genre de fédération. Et à un moment donné, les militaires, les fameux capitaines, ils disent, c'est notre honneur, l'honneur de l'armée qui est en question, parce que, bon, ça se voyait surtout en Guinée-Bissau, le Portugal était contrôlé plus rien, le trois quarts du pays était déjà contrôlé par les troupes, les soldats du PSGC, etc. Donc, mais au départ, il y avait cette histoire. On va vers notre perte, mais c'était l'honneur de l'armée. Donc là, le politique et tout ce qu'on a vu après, quand ça s'est transformé en mouvement des forces armées, on était loin de ces considérations politiques. Pardon.
Oui, c'est notamment en Guinée-Bissau où le mouvement des capitaines se développe avec des gens comme Otto Calvalho, qui est en Guinée pendant longtemps, Vasfluens, qui passe aussi par la Guinée, des gens comme Ramaluens, tout ça, qui vont être parmi les premiers à proche de Spinola qui a essayé de trouver un accord avec le PSGC d'Amílcar Cabral par le biais de Léopold Sédar Senghor, qui est le président du Sénégal, et qui propose un plan d'autonomie dans plusieurs années à Caetano, qui refuse, et qui dit, Caetano dit à Spinola, les armées sont faites pour faire la guerre, et elles peuvent les perdre, elles peuvent les gagner, mais si vous les perdez, ça c'est comme ça. Et donc, en fait, ce que disait Caetano, c'est qu'il voulait pas trouver une solution en Guinée-Bissau, qui était le théâtre militaire qui était le plus compliqué à contrôler pour le Portugal, avec des pertes importantes, avec du matériel du PSGC qui parfois va empêcher l'usage des avions à partir de 73 au Portugal. Et donc, Spinola et d'autres sont prêts à trouver une solution en Guinée, tout en essayant de préserver l'Angola et le Mozambique, et Caetano refuse. Et donc, c'est là où va naître un désaccord, une mésentente, et notamment des accords et mésententes qui vont se manifester dans le livre de Spinola, Portugal de Futur, qui est publié en février 1974, et qui a fait l'effet d'une bombe, parce que ce que dit Spinola, c'est que la solution à la guerre n'est pas militaire, comme le dit le gouvernement, la solution à la guerre est politique, et il faut trouver une autre solution que la façon dont le Portugal conçoit ses colonies jusqu'alors.
Alors, entre-temps, la situation oblige ces capitaines à réagir. Ça fait 50 ans, d'ailleurs, à propos, qui ont commencé les réunions de préparation, justement, de ce coup d'État militaire. Et à ce moment-là, on va arriver, justement, au 25 avril. Mais écoutons ce qui a été diffusé par une radio portugaise à 0h25 exactement. De la nuit du 24 au 25 avril. Écoutons.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, Vila Morena.
Vitor Pereira, justement, donc c'est le mot d'ordre, et après, il y a le mouvement des forces armées, le fameux MFA, qui apparaît. Alors, chose très importante, et vous le faites remarquer dans votre livre, c'est le peuple qui commande aux éditions du Détour, justement, c'est que le peuple, il est descendu dans la rue, le peuple, il n'est pas resté chez eux, comme le demandaient la radio et la télé.
Oui, ça c'est une chose que les militaires n'avaient pas du tout prévu. Ils étaient quasiment sûrs que la population allait rester chez elle. Pour les militaires, le peuple était apathique. Ça s'était vu à la mort politique de Salazar en septembre 68. Personne n'avait profité de cette occasion, alors que Salazar était à l'hôpital, qu'il n'y avait pas de nouveau Premier ministre, pour sortir, pour essayer de profiter de la vacance du pouvoir. Le 16 mars 74, il y a une première tentative de sortie de militaires de la caserne de Kardashevring, qui échoue et la population ne bouge pas. Et donc le plan d'opération qui est rédigé par Otto Ferrer Cadvalho ne prend pas du tout en compte le fait que des civils vont sortir dans la rue et vont appuyer le mouvement et aider le mouvement. Et donc dès le 25 avril au matin, une des grandes surprises, c'est la participation populaire qui ne obéit pas aux ordres qui sont donnés à la radio. Les militaires disent « ne sortez pas de chez vous » pour pas que vous preniez de risques et pour pas entraver les opérations militaires. Et tout de suite, le peuple sort dans la rue et appuie sans aucune équivoque le MFA, et notamment pour les quelques soldats qui sont employés pour faire arrêter le MFA et pour essayer de stopper la révolution. Certains sont découragés en voyant que la population n'est pas du tout de leur côté, mais du côté des insurgés du MFA.
Alors, le sous-titre de votre livre, La révolution des aïeux, 1974-1976, bien entendu, on pourrait rester à parler encore longtemps, parce que vous présentez une synthèse. Il y a plein de choses qui sont là-dedans, des analyses. D'une part, la dynamique révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que le peuple est sorti dans la rue le 25 avril. Les oppositions entre les partis politiques et militaires, sans oublier ce qui se passait au niveau diplomatique, la 7e flotte des États-Unis américaines étaient dans l'otage, et ils étaient rentrés dans l'otage, etc., etc. Donc il y a tout ça qui est développé dans votre livre, mais je pense que quelque chose de très important aussi, ce sont les mouvements sociaux. Parce qu'à un moment donné, comme disait Lénine, le pouvoir ne contrôle plus le pays, mais le pays ne contrôle pas encore le pouvoir. C'est vrai qu'il y avait une dualité de pouvoir à un moment donné au Portugal.
Ça, c'était une idée qui était beaucoup avancée, notamment dans l'année 75. Chose que donc personne n'avait prévu, c'est que non seulement la population sortirait dans la rue le 25 avril pour soutenir les insurgés, mais très rapidement, dans les heures qui suivent, il y a des mouvements sociaux qui naissent. Des habitants de bidonvilles qui vont occuper des logements humides, et à partir du 2 mai 74, un énorme mouvement de grève, d'abord à Lisbonne, après qui s'étend dans tout le pays, où les travailleurs, alors qu'il n'y a pas encore de syndicat, il y a un syndicat clandestin, un syndicat syndical, mais où les travailleurs demandent une augmentation des salaires, des congés payés et surtout l'épuration des entreprises de ceux qui, des patrons, les cadres, qui avaient collaboré avec la police politique pour empêcher toute revendication des travailleurs. Et ce mouvement en 1974, le gouvernement essaye de le réduire parce qu'on dit qu'il faut travailler, parce que c'est la crise, qu'il faut se remettre au travail, que la situation économique est compliquée. Mais en 1974, en 1975, il y aura toujours des mouvements sociaux, et notamment des mouvements sociaux faits parce qu'il y a une grande peur que le Portugal soit de nouveau un nouveau Chili en Europe, et donc une grande peur que le patronat et que les entreprises soient portugaises, soient françaises, portugaises ou françaises ou autres, essaient de tenter de saboter l'économie. Et donc en 75, il y a la création de nombreux comités, des comités de travailleurs, des comités de résidents, et avec une partie de l'armée, notamment Otelo Sarah Carvalho, qui est à la tête de la police militaire, le COPCON, qui soutient ces mouvements populaires et auxquels il faut ajouter les occupations de terres dans le sud du pays, dans l'Anetège et le Ribatège, où les grandes propriétés sont occupées par des travailleurs sans terre. Et donc, il y a cette idée fortement ancrée parmi certains mouvements d'extrême-gauche que le pouvoir pourrait être pris par la population par le biais de ces comités populaires, de ces comités de travailleurs, et un mouvement qui dépasse souvent le Parti communiste par sa gauche, mais et notamment les mouvements de soldats unis vaincront, les SUV. Mais tous ces mouvements ne seront pas assez puissants pour prendre le pouvoir, et à partir du 25 mai 75, l'aile modérée des militaires va vider, va retirer du pouvoir, et notamment le contrôle du COPCON, et qui va réduire tous ces mouvements.
Voilà, et après, on arrive au 25 novembre. Enfin, c'est notre affaire. Merci, Vito Pereira, parce qu'il y a, dans les conclusions, des choses très intéressantes. Il nous reste 15 secondes par là, parce que finalement, vous posez les questions, les œillets sont fanés. Et surtout, un 50e anniversaire sous la menace de l'extrême droite. On va voir qu'est-ce qui va se passer au mois de mars. Il y a des élections, c'est au mois d'avril qu'on va fêter le cinquantenaire. Merci, Vital Pereira. Donc, je rappelle, c'est le peuple qui commande la révolution des œillets 1974-1976, édition du Détour. Et lisez ce livre et il faut le commander dans une librairie indépendante. Oubliez les plateformes. Merci, Vital Pereira.
Merci beaucoup.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto, segunda hora de Passagem Nível, neste domingo 3 de dezembro, emissão com audiodifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Ela já teve início a campanha natal da Santa Casa da Misericórdia de Paris para recolher produtos alimentares de higiene. O apelo este ano, fraternidade, combater a indiferença para ajudar os portugueses carenciados. Lilda Nunes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, Arthur Silva. Obrigada por sempre pensar em nós. A Rádio Alto sempre o faz também. E estamos aqui no armazém, na loja Ibérico, em Argentei. E, se me permite, vou começar por dar a palavra à responsável deste armazém, que é a Dona Sandrina, e que acaba de fazer uma doação à Santa Casa em nome de Dona Hélia, do armazém. Vou-lhe passar, está bem?
Com certeza. Sim. Dona Sandrina?
Sim, boa tarde.
Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. De maneira que, bom, portanto, vocês em solidariedade tinham que estar presentes nesta campanha natal da Santa Casa?
Claro, sempre. Todos os anos contribuímos e é um prazer atendê-los aqui. É um prazer ver que a comunidade portuguesa continua a ser solidária.
Ora, concretamente, como é que se passa? O que é que vocês vão oferecer? Bom, porque quando se fala de uma loja portuguesa, de um hipermercado, eu chamo-lhe hipermercado, desculpe lá, mas enfim, de maneira que, do vosso lado, o que é que vocês vão oferecer à Santa Casa da Misericórdia?
Santa Casa da Misericórdia, nós desde ontem que vemos que tem muito por ter maços, arroz, então nós decidimos oferecer o que é mais. Os bolos, os biscoitos, os produtos higiênicos, como há muita gente que pensa nisso, mas as pessoas também.
Tem só que houve um corte, tivemos um pequenino problema, um bocadinho de música agora e vamos tentar novamente ligar com. Nós estamos em linha com a Dona Sandrina, a Senhora Sandrina, isto a propósito da campanha natal, precisamente de produtos alimentares, mas não só, igualmente de produtos para bebés, é bastante importante, e de higiene e limpeza, e numa altura em que a Santa Casa da Misericórdia de Paris tem cada vez mais pedidos, daí a necessidade também de solidariedade, é precisamente essa palavra, na medida em que a situação atual é bastante difícil, bastante pessoas que estão a viver uma situação precária, mas pude ouvir, a chamada caiu, voltaremos dentro.
Houve um problema, a chamada caiu.
Já está novamente connosco, Senhora Sandrina.
Ah, ok. Ok. Não, a Dona Sandrina já saiu.
Ah, está bem. Hilda Nunes. Ora, precisamente, este ano, Este ano, bom, podemos dizer a mesma coisa já há um certo adiante desta parte, mas a situação é cada vez mais complicada, cada vez há mais precariedade, não é?
Exatamente. Este ano, bom, desde que o Covid começou, que os pedidos aumentaram. E este ano, sinceramente, ainda mais. Aparentemente a situação económica está a tornar-se cada vez mais difícil e, portanto, a Santa Casa, claro, há outras associações que ajudam também, mas a Santa Casa é a estrutura que toda a gente conhece e que sabe que a única função que tem é ajudar quem precisa. E, portanto, as chamadas e os pedidos estão constantemente em aumento.
Ora, precisamente o que está em aumento, isso é uma boa notícia, é a multiplicação dos locais de recolha. Ora, isto implica mais forças, é como quem diz, mais benévolos, mais pessoas que sejam solidárias, não é?
Exatamente, Arthur. É que quanto mais há necessidades, mais nós temos que multiplicar os pedidos, armazéns, lojas, etc., para estarmos lá presentes, e por isso precisamos de mais pessoas. Hoje, precisamente, há uma colega que chegou à Santa Casa há pouco tempo e que é a primeira vez que vem fazer a recolha. E felizmente, nós conseguimos trazer bastantes pessoas ultimamente para a Santa Casa. Isso dá-me, a mim, enquanto provedora, dá-me um grande alento para continuar, porque se continuássemos a ser os mesmos membros que éramos há vários anos, não íamos conseguir dar conta do recado, ou seja, poder estar em tantos armazéns para recolher os produtos para depois ajudar quem precisa.
Ora, bom, é impossível avançar com anunciar todos os produtos. Há muitas coisas, conservas, evidentemente, açúcar, arroz, massa, farinha, legumes secos, é como quem diz, feijão, lentilhas, grão de bico, cereais também para o pequeno almoço, podemos continuar assim, mas algo que é importante também é a validade, tem que ser produtos que tenham validade longa, 6 meses no mínimo, não é?
Pois, exatamente. E se os produtos têm que ter uma validade longa, porque senão, se depois a validade termina, não podemos doar às pessoas. Mas já agora aproveito para dizer também, olha, na escola ontem onde eu dou aulas, os pais dos alunos trouxeram muitos alimentos. Mas houve, como eu expliquei um pouco o nosso funcionamento, houve pessoas que doaram cheques em nome da Santa Casa. E é necessário saber que esses cheques que são doados à Santa Casa, esse montante, as pessoas podem deduzir, podem receber um recibo e esse recibo podem declará-lo nos impostos e são deduzidos quase 70% do montante que é doado. Portanto, ontem foi a primeira vez que isso aconteceu lá na escola e pensei, olha, efetivamente, eu não tenho falado disso e os colegas provavelmente quando interviram também não falaram. Podem precisamente enviar um cheque explicando que é para compra de alimentos, porque às vezes faltam-nos fraldas, etc., como já referimos várias vezes, famílias com crianças pequenas por vezes têm dificuldade, mesmo aqueles fresquinhos com comida, etc. Portanto, as pessoas, em vez de darem alimentos, enviarem um cheque à Santa Casa, ou até forem ao site da Santa Casa, têm lá a possibilidade de clicar e de fazer um donativo em direto e recebem o recibo imediatamente, ou enviar por cheque também para o CEP, Avenida de la Porte de Vente, 75014 de Paris, Santa Casa da Misericórdia, os cheques sempre com o destinatário, portanto, Santa Casa da Misericórdia de Paris, ou então no site e recebem o dito cujo recibo, que podem depois declarar nos impostos e pagam apenas 30% daquele montante.
É como quem diz, dão 100 euros e podem descontar 70 euros dos impostos.
Podem descontar 66,76%. Exatamente, mas é praticamente 70%.
Ele não diz se é válido para nós, mas é válido também para os diretores de empresas e patrões também.
Exatamente, exatamente. Os empresários, qualquer estrutura pode precisamente doar, fazer donativo.
Bom, e fomos outra vez, houve um bocadinho de corte outra vez, isto, as novas tecnologias.
De repente, nós não temos para dar às pessoas.
E algo que é importante também é o trabalho de uma associação, porque o vosso armazém está numa associação. Acho que devíamos falar também sobre esse trabalho que é feito em Piutu, ou não?
Exatamente, e agradeço imenso à Associação de Piutu e à Associação de Piutu Combo que armazenam os produtos. Daqui a pouco vamos levar à Associação de Piutu os alimentos que recolhemos aqui e depois, durante a semana, as pessoas vão lá buscar os alimentos. E agradeço-lhes imenso, tanto a uma como a outra associação, porque sem esses locais nós não podíamos armazenar os alimentos. Eu falei há pouco do 7 Avenida de la Porte do Valve em Paris 14, mas é simplesmente o escritório, e que é um escritório pequeno, relativamente pequeno. Portanto, se não tivéssemos essas associações que são sensíveis ao trabalho da Santa Casa a favor das pessoas carenciadas, seria muito complicado ajudar as pessoas, efetivamente.
Ora, em muitos estabelecimentos comerciais portugueses que participam na iniciativa, nesta recolha de bens alimentares e de higiene, eles têm um cadi, passa a publicidade.
Tem um carrinho das compras, exatamente.
À entrada. À entrada,
temos flyers, temos um cartaz, etc., no próprio carrinho, e portanto nós depois podemos levar, claro, viemos de carro, vamos pôr isso tudo no carro, e em seguida vamos levar tudo para a Associação de Piutu, porque regularmente telefonam-me a saber se dou autorização para comprar produtos, porque já não há. As prateleiras esvaziam-se no ápice e depois não temos produtos para ajudar as pessoas. Hoje conseguimos, e penso que todos os meus colegas o fazem, tentamos sensibilizar as pessoas para doar produtos mais especificamente daqueles que não temos já ou que são os mais solicitados, e precisamente aqui o armazém, a loja do Ibérico da Argentei fez um donativo e precisamente teve em conta o que viu pôr nos carrinhos, que era mais massa, arroz, etc., e eles doaram produtos de higiene, doaram bolinhos, doaram latas de conserva, porque muitas vezes quando as pessoas não podem cozinhar, pois as latas de sardinha ou de outros produtos que são fáceis só para abrir, é muito mais fácil.
E esse propósito, bom, há a campanha de Natal, como eu lhe chamo, mas provavelmente todo o ano há um apoio social, há um apoio jurídico, há que não esquecer todo esse trabalho que é feito pela Santa Casa de Paris.
Claro, hoje estamos a falar sobretudo da recolha de géneros alimentícios, mas todos os dias nós temos uma permanência social, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, essa permanência é telefónica. Portanto, as pessoas que estão com dificuldades telefonam, a pessoa que está do outro lado fica com as informações e nós depois ou propomos uma reunião, uma marcação para que a pessoa venha falar-nos dos problemas que tem. Se são problemas psicológicos, efetivamente, nós solicitamos os nossos psicólogos para que os recebam. Se são problemas jurídicos, solicitamos os advogados, as advogadas que vão ver o dossiê e que vão ajudar a tentar resolver pelo menos o problema, etc. Portanto, somos temos várias possibilidades de ajudar as pessoas. Não só em alimentos, mas a escuta também é muito importante.
Ora, para já, lembro, esta campanha vai durar até o dia 10 de dezembro, é campanha, mas nada impede
não
que as
até,
pessoas...
Até dia 17 de dezembro.
17
de
dezembro.
O outro fim de semana, prolongamos, sim.
Bom, e de qualquer maneira a campanha dura todo. Agora, especificamente neste período de Natal, mas nada impede que durante o ano as pessoas continuem precisamente a ajudar a Santa Casa. E os locais de recolha vão ao site de www.misericordiadeparistudobegadoeminusco.org. Hilda Nunes, uma última questão. Sei que já esteve em Lyon, entre outras coisas, havia todo o projeto que, a nível associativo, e não só com os consulados portugueses nesta terra gaulesa, desta terra francesa, pudessem também participar e ajudar a Santa Casa. Algo que está a ser feito a nível noutras cidades, grandes cidades de concentração portuguesa, não?
Exatamente. Estamos a pensar em Estrasburgo, Marselha, etc. E em Lyon e Bordeaux, as parcerias que nós propomos estão avançar muito rapidamente. Dentro em breve poderei anunciar o que já está a ser feito.
Ótimo, tanto mais que a Rádio Alfa passa em Paris, evidentemente, Lille, Lyon, Strasbourg, Mônaco, Cannes, Nice, mesmo até Marseille, de maneira que, bom, temos muito trabalho para fazer. Edão Nunes, obrigadíssimo, e mais uma palavra de ordem, é, pura e simplesmente, solidariedade, é como quem diz.
Solidariedade.
Fraternidade, combater a indiferença. Muito obrigado, Edão Nunes.
Muito obrigada, Tur Silvia. Obrigada a todos os que ajudam a Santa Casa.
E agora um bocadinho de música também não nos fará mal nenhum, não é? Pois é, isso mesmo. Ali vem o Rodrigo Leão. Silva, estamos aqui ao direto e vamos fazer um salto atrás na história, quero dizer, voltamos a Lisboa, 1940, isto a propósito do livro Lisbonne Ville Verte, nas edições Chandaigne, com Patrick Stroman, 1940, Lisboa, o que é que se lá passava? Patrick Stroman, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y avait une drôle d'ambiance à Lisbonne, justement, en 1939-1940, mais on pourrait dire en résumé que finalement l'Europe, c'était un grand camp de concentration avec une seule sortie, c'était Lisbonne.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y avait déjà, à partir de la fin des années 30, beaucoup de réfugiés qui essayaient de quitter l'Europe et qui mettaient tout en œuvre pour trouver une place sur un des navires qui traversait l'océan Atlantique. Avec la chute de Paris et puis la fermeture conséquente des ports, notamment de Marseille, Lisbonne devenait la dernière porte de sortie que l'Europe pouvait offrir aux réfugiés. Et donc, à partir donc de juin 1940, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui quittaient, beaucoup avaient déjà quitté l'Allemagne ou l'Autriche ou l'Europe de l'Est, l'Europe centrale à l'époque. Et avec la chute de Paris, donc même les Français, ceux qui pouvaient, se sont dirigés vers la frontière espagnole, ont essayé de traverser avec beaucoup de mal pour certains, ont traversé l'Espagne pour arriver à Lisbonne et espérer pouvoir donc embarquer sur un des navires qui faisait la traversée vers New York ou Rio ou un port mexicain. Donc là, effectivement, la ville était évidemment pas du tout préparé, disons, pour cette arrivée massive de réfugiés, mais la ville, les habitants et jusqu'à un certain degré aussi l'administration ont effectivement, d'une façon tout à fait admirable, quand on regarde cette situation avec les yeux d'aujourd'hui, on réussit à administrer cette situation et à permettre à beaucoup de gens de quitter l'Europe et donc d'avoir leur vie sauve.
Alors, des dizaines de milliers de réfugiés, bon, il y avait des anonymes, des intellectuels et des artistes, parce que c'est incroyable le nombre d'intellectuels et artistes, je pense Saint-Exupéry par exemple, et pas seulement, c'est-à-dire c'est énorme tous les gens qui ont été sauvés du nazisme finalement.
Oui, alors c'est tout à fait, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, en fait, c'est mon éditrice Anne Lima m'avait fait remarquer un jour qu'elle avait vu à la suite, j'avais appris à la suite d'une exposition que le photographe Roman Vichniac avait pu quitter l'Europe en passant par Lisbonne. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet, j'ai découvert que Vichniac avait embarqué sur le même bateau que Saint-Exupéry, que vous venez de mentionner, mais aussi Jean Renoir. Alors du coup, je me suis dit que des trois personnalités aussi différentes, un photographe, un écrivain et un cinéaste, se retrouvent tout en ayant des biographies et des tout à fait différentes, finissent par se retrouver sur le même bateau pour se réfugier à New York. Ça m'a paru tout à fait extraordinaire et ça m'a paru aussi dire quelque chose sur le statut que pouvait avoir Lisbonne à cette époque pour tous ceux qui souhaitaient qui essaient d'avoir la vie sauve et de sortir d'une Europe en guerre.
J'ai l'impression que c'est avec ces recherches que vous avez su que votre grand-père était passé par Lisbonne, bon, pour d'autres raisons, je rappelle.
Oui, alors ça, c'était effectivement très intéressant. Pour moi, ce n'était pas une révélation, j'ai toujours su qu'il avait effectivement, lui aussi, traversé Lisbonne, mais j'ai toujours, c'était un peu une histoire comme ça qui était un peu en courait sous la. Qui n'était pas vraiment mentionnée, mais il me semblait, quand j'étais jeune, il m'en avait parlé une fois, j'avais surtout le souvenir de la description véritablement apocalyptique, il m'avait livré de sa traversée d'Espagne. Il ne faut pas oublier que l'Espagne était à l'époque, évidemment, complètement détruite par la guerre civile en 1940. L'Espagne sortait de 3-4 années de guerre civile. Le pays était exsangue et pour tous les voyageurs, le contraste était énorme entre cette Espagne au bord de la famine et l'arrivée à Lisbonne où. Contrairement au reste de l'Europe, les lumières étaient brillées la nuit, on pouvait circuler en voiture sans avoir les phares baissés. Donc il y avait c'était vraiment une ville qui était en liberté relative. Enfin, c'était quand même une ville qui n'était pas immédiatement menacée par la guerre et qui contrastait énormément par ce que les gens avaient pu voir lorsqu'ils avaient traversé l'Espagne. Et j'avais ce récit en tête de mon grand-père, mais je n'avais pas vraiment mis chronologiquement en récit. Enfin, je ne m'étais pas vraiment intéressé à l'année pendant où il avait fait ce voyage, ni pour les raisons. Et c'est en travaillant donc, sur ces réfugiés qui sont passés par l'Espagne que je me suis rappelé de ça et je me suis un peu plongé dans ces documents. Et puis là, j'ai vu qu'il était, il avait entrepris ce voyage fin 40, c'est-à-dire qu'il a. Il est parti au mois de septembre 40, il est rentré en novembre en Suisse. C'est ce qui m'a tout à fait paru stupéfiant et vraiment étonnant. Et il est décédé il y a une vingtaine d'années, je n'ai pas eu l'occasion évidemment de lui poser la question. C'est comme il est d'origine juive, il était d'origine juive, ça m'a paru assez extravagant que fin 40, un juif puisse prendre un bateau pour retourner de New York vers
la Suisse. Alors, vous citez un certain nombre d'œuvres, c'est-à-dire d'écrivains et pas seulement, parce que bon, il y a plusieurs petits portraits dans le livre. Et tout à l'heure, vous avez parlé de lumière. Justement, je pense que la plupart des témoignages parlent de cette lumière de Lisbonne.
Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a frappé absolument tous, indépendamment de la différence. Pouvait y avoir entre ces personnalités, mais tous étaient frappés, je dirais, par la vivacité de Lisbonne la nuit, de l'animation, les restaurants, les bars, l'éclairage de la ville. C'était vraiment la ville lumière. Et puis, il faut dire aussi que le jour, les gens étaient, venant de toutes les régions, les régions les plus diverses de l'Europe, étaient frappés par la beauté de la lumière diurne, de la lumière atlantique. Dans laquelle baigne Lisbonne. Donc, c'était vraiment la ville, je pense. Alors, c'est assez contrasté, parce que les gens avaient donc, beaucoup de ces témoignages, on découvre une véritable révélation en arrivant à Lisbonne. Ils étaient séduits par la beauté de la ville, et en même temps, on sent que c'est pas vraiment leur préoccupation de réfléchir sur cette ville. Au fond, tout le monde voulait s'en sortir. Donc, paradoxalement, tout le monde mentionne avec deux, trois phrases les sentiments qui les animent lorsqu'ils arrivent enfin dans cette ville, ce qu'ils éprouvent lorsqu'ils voient cette société qui du coup a une vie, il y a une vie nocturne vraiment assez, encore une fois, en ce qui concerne les restaurants, les cafés, etc. Il y avait une liberté comme ça qui n'était absolument plus possible dans le reste de l'Europe. En même temps, dans la journée, il y avait cette beauté de la lumière naturelle, mais tout le monde se disait aussi comment est-ce que j'arrive donc à remplir une place dans une cabine d'un transatlantique, comment est-ce que je fais pour avoir un visa brésilien ou américain ou mexicain. Enfin, les gens étaient à la fois tiraillés entre, je dirais, les besoins immédiats qui étaient urgents et puis cette fascination qu'ils avaient éprouvée pour la ville.
D'ailleurs, ça n'a pas été pacifique avec la police et avec le régime fasciste, dans la mesure où il y avait des femmes européennes qui fumaient dans les terrasses des cafés, et ça, alors là, c'était très, très, très mal vu au Portugal. Mais enfin, je pense.
Alors, il y avait effectivement un petit choc culturel, les femmes, déjà certaines qui tournaient en pantalon, ou qui fumaient, ou même qui rentraient dans les bars étaient quand même majoritairement fréquentés par les hommes, même si, effectivement, il y avait. Là, je pense c'était aussi une vraie rencontre pour la société lisboète, parce que là, il y avait quelques. Alors, la presse parle de façon assez pudique de la nouvelle mode qu'on pouvait découvrir sur les plages des alentours de Lisbonne. C'est évidemment une mode qui est apportée par les réfugiés. Ce ne sont pas des revues de mode qui ont imposé une nouvelle ligne, mais il y a là, je pense. Il y a eu un petit choc par rapport au fait que les milieux conservateurs pouvaient effectivement être un peu ébranlés en voyant ces mœurs. Beaucoup de gens avaient un arrière-plan un peu. Il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient réfugiés parce que juifs. Il y en avait beaucoup qui étaient réfugiés parce que socialistes ou communistes, d'autres parce qu'ils pensaient libertaires ou autres. Mais pour ceux qui avaient une formation, une idéologie un peu socialiste, évidemment, il y avait toujours un peu en filigrane l'idée de l'émancipation de la femme qui n'était pas vraiment à l'époque, à l'ordre du jour, à l'époque,
là. Loin de là, loin de là. Et justement, bah, il faut dire aussi qu'à l'époque aussi, le régime fasciste a institué un maillot de bain, bon, pour les hommes et pour les femmes. Mais enfin, laissons tout ça. Alors, Patrick Stroman, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Ville verte, récit Lisbonne 1940, chez Chandaigne. Merci.
Merci beaucoup à vous. Voilà.
Merci.
Patrick Stroman, nem mais nem menos, Lisboa, Vila Verde. Bom, é um passeio, como quem diz, já há uns aninhos, 1940, nem mais. Mas algo que nos interessou hoje é sobretudo o 25 de Abril, 1974. No próximo ano estão previstas inúmeras, mas digo bem, inúmeras celebrações. Publicações essas não faltam e de maneira que talvez refletir na medida que também vão haver eleições relativas em Portugal, com tudo o que isso pode implicar, numa altura que, a nível da Europa, cada vez mais países votam à direita, à extrema-direita, devia dizer, que votam à extrema-direita. Situação difícil e quem é o bode expiatório no meio disto tudo, mais uma vez, são os imigrantes. E nós, portugueses, quando chegamos aqui, é aqueles que chegaram aqui nos anos 60 e no princípio dos anos 70, deram-se talvez conta dos problemas que haviam. Nem mais, nem menos, mas enfim. E para aqueles que queiram desanuviar um bocadinho e pensar na música, não se esqueçam que continua nos cinemas franceses o filme César e Évora, La Diva au Pied du, nem mais nem menos, é um documentário da Ana Sofia Oliveira, um documentário precisamente sobre a vida dela. Mas agora não vamos estar longe daquilo que estamos a dizer, vamos voltar um pouco mais atrás, mesmo um bocadinho até Camões, nem mais nem menos. Cristina Cortes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto com a Rádio Alfa.
Muito boa tarde, obrigado pelo seu convite, o prazer é meu e permita-me que comece por saudar todo o auditório.
Ora, não é por acaso que eu falo de Camões, porque bom, trata-se do seu livro, A Espiral de Delfos, que foi publicada pelas edições Calçada das Letras, vai fazer a apresentação aqui no Consulado. Isto vai ser já no dia 5, terça-feira, às 8h30, Consulado-Geral de Portugal, em Paris. É um livro de poesia. Camões, tanto que fala em Camões, Camões que vai haver um aniversário, que em breve vai ser...
É verdade, a partir do próximo ano comemorar-se-á efetivamente o 5º centenário do nascimento de Camões, e esta minha obra, de facto, deve-lhe um pouco, não pela obra especificamente em si, mas é a minha dedicação e o meu apreço por Camões vem desde há muito tempo. E especificamente neste livro, ele é organizado num determinado conjunto de poemas, 9, e todos eles têm efetivamente uma epígrafe de um dos poemas de Camões.
Ora, Delfos, quando se fala de Delfos, bom, estamos no mar Mediterrâneo, Delfos,
é
a Grécia, a mitologia está perto disto tudo, não?
Está, sem dúvida. A minha civilização grega, a cultura grega, diz muito desde há muito tempo. A Grécia, de alguma forma, esteve na origem do pensamento ocidental, e este livro é também uma forma de homenagear essa tradição cultural, de que o exemplo talvez mais característico seja efetivamente o templo de Apolo em Delfos, e é por isso que a capa do livro o reproduz.
Ora, há um poema, O Peso da Idade. Lentamente faz referência estou a citar um texto seu a propósito, ainda à volta do Camões. E se assim foi, Camões deixou o mundo e a poesia pela porta grande ao seu mais alto nível. Pela minha parte, não sei.
Eu sei, quer dizer, a minha ideia é que efetivamente esse poema de Camões, As Redondilhas do Sobre os Rios, são efetivamente uma das composições de maior dimensão e de maior ambição filosófica, digamos assim, do poeta, que dá um tratamento neoplatónico à passagem do tempo, digamos assim, à passagem do tempo, e é provavelmente a datação das obras do Camões, pois não se sabe muito bem muitas vezes em que altura é que elas foram escritas, mas esta é seguramente uma das composições da fase final da sua vida, e é por isso que eu digo que se de facto assim foi, se esta foi uma das últimas composições dele, ele saiu pela porta grande, efetivamente, porque é um poema de altíssimo nível.
Ora, é verdade que a composição Camuniana tem tantos versos, eu peço desculpa,
é verdade, quantos dias de um ano comum. São 365 versos, ela é apresentada em quintilhas, embora por vezes algumas quintilhas em algumas edições estejam agrupadas em décimas, estão duas seguidas, mas são efetivamente 365 dias. E há de supor que isso não tenha acontecido por acaso, mas que Camões, que era muito consciente também destes aspectos simbólicos da numerologia, e quis de facto fazer um poema que seria a síntese da sua posição filosófica e religiosa, e cada verso corresponde a um dia do ano, efetivamente.
Ora, Sr. Cristino Cortes, tem uma formação em economia.
É verdade.
Licenciatura em economia. Economia e a poesia?
Ah, a economia e a poesia não são de modo nenhum incompatíveis. A poesia sendo uma forma de linguagem, de tratamento de linguagem, pois ela é praticada e está ao alcance das pessoas que a elas são sensíveis, independente da formação académica e da profissão, enfim, que têm, ou que tiveram, no meu caso, porque agora já não exerce nenhuma. Já não exerce nenhuma. Mas com certeza que há grandes poetas que foram médicos, sobretudo médicos, parecem ter uma grande tendência para o tratamento literário, talvez porque da experiência que têm no seu contacto profissional com as mais variadas situações, depois têm o tratamento da poesia, mas também outras formações académicas e outras experiências, com certeza. Sim.
Ora, diga.
Pergunta.
Não, ora, no plano da obra, começa a casa da partida e termina o futuro da memória. Isto é um trajeto de vida, isto?
Parece-me que sim, que há de alguma forma um movimento que a mim me parece próximo da espiral, porque realmente há uma casa de partida, depois há uns pressentimentos, depois há mais umas meditações de face ao espelho, o peso da idade, uma observação do mundo exterior, depois o adeus de quem acha que vai, enfim, sair, o que fica, o que leva, mas é que parece-me que isto há aqui assim um certo movimento, que eu direi um certo movimento de retorno, vai e volta, e sobe, parece-me próxima da imagem da espiral, e foi isto que efetivamente me levou a dar este título à obra, e depois de Delfos, porque Delfos é tradicionalmente na mitologia grega a origem do mundo. Portanto, em Apolo, em Delfos, o templo de Apolo seria ali supostamente a origem do mundo, e essa é a razão do título do livro. E isso não me permite, ou se calhar poderia dizer que muito me agrada fazer o lançamento dele aqui em Paris, em França, porque eu há muito tenho uma grande admiração pela cultura e pela língua francesa. Portanto, eu ainda sou se calhar um dos últimos, ou os da minha geração, aqueles que estudaram sobretudo a língua francesa na sua escola, nos seus liceus. Hoje, atualmente, penso que há uma maior predominância do inglês, mas eu ainda sou de formação francesa, digamos assim, e é um grande gosto, é seguramente um grande gosto ter esta oportunidade de, tendo um livro publicado muito recentemente, poder ter a oportunidade de proceder ao seu lançamento aqui em Paris.
Com efeito, como dizia um poeta, a vida é um perpétuo movimento. Cristina Cortes, muito obrigado. E damos encontro, então, na terça-feira, a partir das...
Pois, eu agradeço-lhe e, se me permite, reforço o convite para que todas as pessoas que nos estão a ouvir, se quiserem aparecer e puderem, pois serão muito bem-vindas e será para mim uma grande satisfação.
Muito obrigado.
Muito obrigado,
Espiral de Delfos. Poemas, edições Calçada das Letras, terça-feira, dia 5 de dezembro, às 18h30, no Consulado João de Portugal, em Paris. E assim estamos a terminar esta emissão do domingo, dia 3 de dezembro. Lembro, com a difusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Obrigado, Manuel Alexandre. E já agora vamos voltar alguns aninhos atrás. Voltamos à noite de 24 para 25. Já passámos a contrassenha e agora aí vai a canção por completo, evidentemente. José Afonso, Grândola, Vila Morenta. Bem-ajam e, como diria o outro, 25 de Abril sempre.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira.